Chapitre 7 Contour. Serge remonte le col de son blouson. L'air est frais, avec des allures de printemps qui n'y croit pas encore et pousse des nuages frisquets devant un soleil tout palichon, délavé par des semaines de pluie. Dans le square, les arbustes commencent à pointer leurs bourgeons entre jaspe vert tendre et satin moiré vert de gris. Le bac à sable est silencieux, les balançoires immobiles. Seul un vieil homme sur un banc salue à bout de bras une cour de pigeons qui se dandine autour des miettes de pain qu'il a dispersées devant ses pieds. Serge est passé par sa galerie hier soir dès sa descente d'avion. Julien a paru surpris de le revoir. Il le pensait parti pour un périple plus long. Il se débrouille bien. Il a réalisé la vente d'un croquis pour lequel Serge avait amorcé des négociations qui semblaient ne pas devoir aboutir. Serge s'est empressé de le confirmer dans ses fonctions de responsable de la galerie en lui annonçant son désir de prolonger ses vacances. Ce midi, il a décidé d'aller rendre visite à quelques confrères. C'est l'heure propice aux propos anodins autour d'une tasse de café. Généralement, on y apprend les mouvements du marché de l'art, les visées des uns, l'état d'avancement des ventes de tels autres, les contacts en cours relatifs aux acquisitions, les difficultés avec le fisc, l'état d'esprit des acheteurs, leurs enthousiasmes et leur frilosité. Bref, c'est le moment idéal pour sentir l'atmosphère et se mettre au courant des dernières nouvelles, celles que les journaux spécialisés n'évoqueront que dans les semaines à venir. À plusieurs occasions, Serge a pu constater combien ces entretiens informels, sur le bas de la porte d'une galerie ou au coin d'un comptoir de bar, sont déterminants. Sa plus belle affaire d'ailleurs, c'est comme cela qu'il l'a réalisé, après avoir passé une bonne heure à bavarder de tout et de rien surtout, du moins en apparence. Serge sait le goût qu'ont ses comparses pour le dévoilement de leur stratégie commerciale. En faisant allusion à tel client prestigieux, à telle œuvre connue, ils ont l'impression qu'un peu de gloire et de beauté rejaillit sur eux. Ils se sentent grandis de cette fréquentation avec les fortunes de ce monde et les chefs-d'œuvre dont le mérite essentiel à leurs yeux est d'être reconnu comme tel. Ils n'ont même pas conscience de cet état de fait, trop occupés qu'ils sont de comptabiliser par le menu le degré, la qualité, la nature de l'intimité qu'ils entretiennent avec de richissimes clients au nom soi-disant de la beauté. Ils vivent ainsi dans une illusion totale dont ils sont les auteurs et qu'ils se hâtent de dénoncer chez tout autre n'appartenant pas à leur fratrie. Entre eux aussi, d'ailleurs, ils se détestent et se jalousent avec une constance qui n'a d'égal que l'application qu'ils mettent à dissimuler ses sentiments. Serge sourit en pensant qu'il retrouve là, avec les adultes, ce qu'il ne supportait pas chez les filles quand il était à l'école primaire et préparait le certificat d'études. Il avait été souvent en butte à leurs moqueries dès qu'il avait l'ambition de faire le justicier en dénonçant les propos acerbes de certaines filles contre l'une d'entre elles. À l'instant où, convaincu de la vérité de son combat, il avertissait du danger celle qui était menacée d'exclusion, toutes les filles, sans exception et comme par enchantement, se retournaient d'un bloc contre lui. La manœuvre le prenait toujours au dépourvu et il rageait de ce qu'aucune ne semblait capable d'avoir la moindre notion de droiture. Depuis, il en avait gardé l'impression d'une versatilité féminine certaine, ce qui n'était pas sans l'arranger dans la conduite de sa propre vie, en lui donnant une justification toute trouvée pour consommer les femmes avec une grande légèreté, sans avoir jamais à s'engager auprès d'elles de quelque manière que ce soit. À la palette, Serge retrouve deux collègues. « Tiens, je croyais que t'étais parti en vacances, c'est Julia qui me l'avait dit. » Oh, je ne fais que passer. J'ai pris durant 3 semaines, mais ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas arrêté que je ne vais pas reprendre tout de suite. Julien se débrouille très bien d'ailleurs. Moi, oh, je vais traîner encore un peu. Je vais peut-être rester sur Paris. Ah, t'es pas parti à l'étranger avec ton frère? Si, si, mais tu sais ce que c'est. On s'aime bien, on est content de se voir. C'est bon. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Puis t'es où? On est allé un peu du côté de l'Espagne. On y a de la famille éloignée là-bas. Lui, oh, il continue à jouer le touriste. Oh, je crois que ça l'arrange bien. Sa femme ne le fait plus rêver. Elle est gentille, mais pff, le mariage, ça use. Et Serge se plaît à parler ainsi dans l'air du temps, l'air de ce que tout le monde attend, attend, l'air des poncifs, des propos conformes, préformés au goût et au dégoût de la moyenne de l'humanité. Il tait le bonheur d'avoir été aux côtés de son frère pendant le long périple qui les a amenés jusqu'à Tichit, le plaisir de ces nuits étalées sur des centaines de kilomètres passés à rouler vers le sud, la lumière bleue du tableau de bord et le monde en ombre chinoise de chaque côté de la route. Il ne dit rien des lettres d'amour rédigées par Adrien lors de chaque étape et qu'il signait de son propre nom pour, finalement, ne pas les poster à celle à qui il les destinait, les jugeant trop belles et disproportionnées par rapport à la vague tendresse faite d'une part non négligeable d'habitude qu'il a pour une certaine Aurélia dont il a parlé à Adrien. Serge avait été bouleversé par la ferveur de l'écriture de son frère, voyant en celle-ci l'expression d'une âme toujours aussi sensible qu'il y a 40 ans, lorsque Adrien passait des nuits blanches pour être en harmonie avec la violence de la dernière de ses passions amoureuses. Serge avait découvert avec émotion que son frère était toujours le cœur pur, plein d'excès et d'exigences, qui ne fait jamais spontanément la part du rêve et de la réalité. Adrien avait saisi la boutade de Serge, suggérant qu'il rédige lui-même ses lettres, avec un sérieux immédiat, et s'était mis au travail dans l'instant même. Ainsi, jour après jour, Serge signait ce que son frère écrivait et annonçait l'expédition de ce courrier qu'il cachait en fait dans ses bagages. Tu rêves ou quoi? Pardon, que veux-tu, les vacances? Je te demanderai pourquoi tu voulais passer 3 semaines en famille, toi qui prétends toujours que la famille, c'est bien, mais seulement de loin. Non, on est resté 3, 4 jours seulement. Sinon, on a fait du tourisme, église, musée, enfin les trucs habituels, quoi. J'ai un peu regardé pour ma galerie aussi, mais bon, tu sais ce que c'est, je n'avais pas la tête à ça. Ah, il faudra pas que tu te tardes trop à t'y remettre, ça bouge toujours autant ici. Tu tournes les yeux 5 minutes et une vente te passe sous le nez. Tiens, l'autre jour, j'ai loupé une aquarelle que je guettais depuis quelques mois. Ma femme voulait aller au baptême d'un neveu. On est parti vendredi dans l'après-midi pour éviter les bouchons et on est rentré lundi matin. Eh bien, tu vois, ça suffit pour que l'affaire se fasse dans mon dos. Je n'avais pas pensé à laisser mes coordonnées et le gars eut besoin d'argent frais dans le week-end. Comme je n'étais pas engagé ferme, je n'ai pu rien dire. Oui, je sais, mais là, je reste sur Paris pour me remettre dans le rythme. La conversation traîne d'un sujet à l'autre. Serge en est à son troisième café, son voisin de droite trempe sa moustache dans sa deuxième bière, et celui de gauche sirote son Carvitel. Avant, il buvait une coupe de champagne, bien évidemment, et une autre en fin d'après-midi. Puis, il a eu des déboires, quelques démêlés à propos de droits de succession. Entre-temps, son estomac est devenu fragile. L'explication pour renoncer au champagne l'oblige maintenant à avaler son grand verre d'eau tous les soirs. Il aurait pu se rabattre sur le café, mais ça n'était guère crédible médicalement parlant. Et surtout, ça aurait induit un mélange des genres. Or, les Vertel sont galéristes, experts en art depuis 3 générations au moins. Le café, ça ne marque pas la différence. Ça peut même faire franchement prolétaire. Il y a tellement de brocanteurs maintenant. Dis-moi, Vertel, tu as vendu ton immense toffolie ? Oh, ne me parle pas. J'ai failli le garder avec les bras cette fois encore. Les gens parlent beaucoup comme ça, mais après, quand il s'agit de prendre une décision, c'est autre chose. Enfin, me voilà tranquille, j'en suis débarrassé. Là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il advient de ce feuillet daté du XIe siècle et qui a disparu de Mauritanie il y a juste plus d'un mois. Tu vois de quoi je parle ? Ah non, pas bien, raconte. Vertel balaie du regard la salle du café et se penche vers Serge. Tu as bien lu les journaux, mais l'essentiel n'y est pas, tu dois t'en douter. Il paraît que le gars qui a fait le coup travaille pour le compte d'un type de la haute. Tu le connais, ce ne sont pas des choses à dire, mais entre nous, là, je crois qu'il était client de ma galerie, enfin, de la galerie du temps de mon père. La voix de Vertel n'est plus qu'un souffle. Serge émet un sifflement d'admiration. Vertel se redresse, prend confiance. Serge le sent prêt à s'épancher un peu plus. Le problème ensuite, ce sera de faire la part de vérité et de vantardise. Vertel est comme ça, il ne peut pas s'empêcher de forcer le trait, d'enjoliver, de déplacer même, Adrien dirait, transposer les faits pour se retrouver en position de proximité avec eux. Ben vas-y, raconte. Doucement, ça se déballe pas sur la place publique, des choses comme ça. Ce que je disais, c'est juste histoire de parler. Moi, je suis toujours en vacances, je n'ai pas envie de remettre le pied à l'étrier tout de suite. Mais tout de même, tu sens bien au courant. Normal, ça te concerne un peu, en quelque sorte. Là, tu crois pas si bien dire. Figure-toi que le petit Jason... c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'y retourne. Et puis je la connais, tes histoires, Vertel. Allez, à plus tard, les amis. Et Serge ne tarde pas trop à revenir. On s'ennuie sans toi. Fournier, le buveur de bière, se lève et enfile son veston à carreaux. Serge l'aime bien, ce type, avec ses pantalons de golf à toute saison, ses cravates lavalière qui semblent sortir du coffre à habits de son grand-père et lui donnent des allures de rapin, qu'il cultive avec un grand plaisir, non dénué d'une certaine ironie à son propre égard. Serge se retourne du côté de Vertel, un peu inquiet de ce que la confidence ait pu avoir été interrompue par la sortie de Fournier. Il n'ose relancer la discussion, ne voulant rien laisser voir quelque intérêt que ce soit pour l'affaire, mais, guidé par sa connaissance fine des hommes, il décide de revenir à son comparse lui-même. « C'est vrai qu'avec toi, en tout cas, on ne peut pas s'ennuyer. Tu as toujours une histoire à raconter. » Une galerie de père en fils depuis des générations, ça n'est pas rien. Tu as toujours vécu dans le milieu de l'art, tu as vu défiler des tas de gens. Vertel est ravi. Il considère encore Serge comme le petit nouveau qu'il faut initier, et il se juge le plus apte à le faire. Oui, alors je te disais que j'avais vu Jason la semaine dernière. C'est qui ce Jason ? Enfin, tu le connais bien, le courtier de l'essage. À vrai dire, c'est plutôt son commissionnaire. C'est lui qui va chercher les cafés, porte la recette à la banque et reçoit parfois les coups de téléphone quand l'essage n'est pas là. Mais il n'a jamais fait la moindre transaction lui-même. Seulement, il paraît que le père, le sage, a fait une boulette sur son contrat d'embauche et a écrit courtier au lieu de coursier. Oh, je me souviens à l'époque que l'histoire avait fait le tour de la profession. Alors, il est plus tout jeune, ce Jason, parce que les sages, c'est presque la génération d'avant. Ah, détrompe-toi, il a dans la trentaine, pas plus. Mais il avait été pris dès 14 ou 15 ans. C'est le fils d'un client qui n'arrivait à rien avec lui. Il faisait les 400 coups à l'école et le père l'a placé là pour avoir la paix. Tu dois le connaître, je te dis, il traîne toujours dans le coin. Ah, il n'est pas dévoré par l'ambition, dis donc, pour continuer à promener ses cafés et ses demis après 15 ans de bons et loyaux services. Là, je ne m'avancerai pas trop. Je te disais justement, lorsque je l'ai rencontré la semaine passée, il n'avait pas l'air dans son assiette. On parle de choses et d'autres. Oh, tu sais, à force d'être toujours dans le même milieu, on finit par apprendre beaucoup sur le terrain. Et ça, je m'en suis tout de suite rendu compte pour Jason. C'est drôle, je ne l'avais pas vu depuis longtemps et je n'aurais pas imaginé qu'il soit tant informé du marché de l'art. Bon, il faut rien exagérer, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent de plus ou moins près. Non, c'est pas ça. Comment te dire ? Il m'a posé deux ou trois questions qui m'ont fait tiquer. Tu vois, par exemple, il était au courant pour les bibliothèques du désert. Or, peu de gens le sont, du moins l'étaient jusqu'au vol de ce document. Ah, explique, je suis pas rapide, je reviens de vacances. Mais tu sais qu'on a retrouvé dans la région de Lchigalti, en plein milieu du désert mauritanien, des manuscrits qui datent du Moyen-Âge au moins. On pense même qu'il en est le plus ancien. On en a parlé dans les années 1980, je crois, parce que l'UNESCO les a classés patrimoine culturel de l'humanité. Depuis, quelques associations et fondations aident sous différentes formes. L'Institut mauritanien de recherche scientifique a catalogué ces livres, à les mettre sur microfilm aussi. Puis il faut les restaurer, les déposer dans des lieux garantissant leur conservation, éliminer les termites. Tu vois d'ici, c'est un travail de longue haleine. Mais on peut dire qu'il a été effectué jusque-là dans la plus totale discrétion. En France, par exemple, il n'y a qu'au plus haut niveau de l'inspection générale des bibliothèques qu'on savait un peu de quoi il s'agit. Et alors ? Il y a quelques semaines, à Tichit, une page d'un de ses manuscrits disparaît, et depuis c'est l'effervescence. Qui les garde, ces ouvrages ? Les vieux. Comment ça, les vieux ? Il paraît que c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. C'est parmi les plus âgés, celui qui est reconnu le plus sage, qui a la charge de chaque bibliothèque, qui ne doit en aucun cas quitter le village où elle se trouve. D'ailleurs, les organismes officiels sont reçus avec une pléthore de précautions, et les gens sont très jaloux de leurs prérogatives. On n'a pas vu sortir les livres pour les expédier ailleurs afin de les restaurer. Tu te rends compte ? On est même en train de former des locaux dans les métiers du livre pour qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Il paraît qu'il y a déjà quelques relieurs très compétents. Oh oui, ça me paraît en effet une solution intelligente. Tu parles. Tous les maisons du monde sont à l'affût et proposent leurs services en échange de quelques exemplaires. Oh, tu exagères. Mais Jason, qu'est-ce qu'il a à voir avec cette histoire ? C'est drôle. Il m'a demandé si je connaissais un client prêt à aligner un chiffre avec beaucoup de zéros pour une œuvre exceptionnelle. Et ça, c'était juste après qu'on ait parlé de la Mauritanie. Je me souviens plus d'ailleurs comment le sujet est venu, mais je t'assure que pour un coursier, il avait des connaissances, et pas de celles qu'on trouve dans les revues d'art, même spécialisées. En revanche, ce dont je me souviens, c'est qu'il n'a pas répondu quand je lui ai demandé s'il cherchait quelqu'un pour son patron. Il n'avait pas l'air pressé avant, et là, d'un seul coup, il file en me disant qu'il a un rendez-vous. Il l'aura oublié, s'en sera souvenu au dernier moment, c'est tout. Mais tu pourrais me dire alors pourquoi il n'a pas répondu à ma question? Ben, qu'est-ce que tu imagines? Rien, mais bon, ça m'a paru bizarre sur le coup. C'est vrai que maintenant je ne vois plus du tout pourquoi j'ai eu cette impression. C'est idiot. Tu as des nerfs sensibles, tu devrais partir en vacances à ton tour. Moque-toi, mais je serais toi, je me méfierais tout de même. Des types comme ce Jason, il y en a plusieurs, et des fois, on les embauche quand il y a un coup de feu. Ils apprennent, mine de rien, ils regardent travailler en prenant des airs d'arriéré. Et puis un jour, bah, ils t'ouvrent une galerie juste en face de la tienne. Ah, là, tu rigoles moins. Moi, je n'ai pas ce problème, mon boulot c'est une véritable institution. Mais pour les jeunes comme toi, le métier a des risques, et il y en a plus d'un hein, qui s'est retrouvé sur la paille sans avoir rien vu venir. On te pique ta clientèle et tu es le bec dans l'eau avec aucun moyen de... Serge n'écoute plus. Jason, oh, le nom lui dit quelque chose, mais il ne sait pas mettre un visage dessus. Vertel, Péror, avec le ton du maître qui condescend à initier l'élève, le geste ample, le verbe haut. Il en a même oublié son carvitel. Serge se garde bien de l'interrompre pour partir. Le bonhomme ne manque pas de finesse et serait capable de se demander ce qui justifie une telle précipitation chez quelqu'un qui est en vacances. Serge tient à lui donner l'impression qu'aucun de ses propos n'a retenu son attention plus que les autres. Derrière les vitres du café, le jour s'efface lentement devant les premières brumes du soir qui s'accrochent autour des lampadaires sur la place. Chapitre 8 Tichit. Aujourd'hui mardi. Le vent doit souffler comme chaque jour sur Dakia et ses falaises battues par la solitude de la mer. Le premier convoi a certainement déjà quitté la ville, laissant derrière lui des nuages de sable suspendus en quête d'horizon plus serein. De janvier à mars, les tempêtes sont terribles dans la région. Et il faudra bien 3 jours de voyage pour arriver jusqu'à Noualibou. Là, la caravane se disloquera pour se refaire avec d'autres camions, d'autres véhicules tout-terrain, colonies de chenilles infatigables qui serpenteront plein sud vers Médercha, Saint-Louis, et plus à l'est vers Attar, Tshinghetti, Ouadan. Assis sur le seuil de la porte, Adrien imagine des voyages. Le mouvement des dunes accompagne les battements de son cœur. Il a lu pendant 3 heures dans la bibliothèque avec Abidine, et l'or terni du sable apaise la brûlure de ses yeux. Depuis une dizaine de jours, il est installé chez le vieil homme et passe ses journées avec lui, classant et répertoriant les manuscrits, mettant de côté les textes qui lui semblent importants pour ses recherches. Mais à mesure que le temps avance, il a moins de hâte à les consulter. Il est pris par le rythme de ce pays de sable que son hôte lui raconte et qui fait un doux vertige à l'âme dont il ne peut se lasser. Le soir, lorsqu'Abidine revient de la mosquée, tous deux s'installent dans la cour et Adrien attend. Il attend qu'Abidine convoque les gens de ce lieu, ses parents et grands-parents, ses oncles et tous ceux qui sont plus ou moins affiliés à la famille ont laissé de traces de leur passage dans sa mémoire. Adrien sait que le temps d'analyser les manuscrits viendra, que le temps de l'écoute laissera place au temps de l'étude. Il sait qu'Abidine sera là pour le guider en lui livrant tout son savoir, et il sait encore qu'il ne lui faut pas bousculer ce temps préalable de parole. Surtout, il sait enfin qu'il n'a pas, qu'il n'a plus, le moindre désir de le faire. Bien sûr, ses recherches sont toujours présentes à son esprit, Et souvent, Abidine et lui discutent filiation, évolution des patronymes. Mais il ne met à cela aucune hâte et n'a pas encore pris la peine de regarder de près les textes qu'Abidine lui a conseillé de consulter. Il aime par-dessus tout lire les parchemins qui racontent le lent cheminement des caravanes d'est en ouest, puis d'ouest en est, à l'époque où c'est le pas des bêtes et des hommes qui disait les heures et les jours. Il a suivi ainsi deux voyages d'une même famille et a vu naître une fille, Oumia. C'est d'ailleurs la sonorité de ce nom qui a appelé Abidine une fois encore vers les murmures de sa mémoire. Pour Adoïa, oh, il a rêvé tout haut sa grand-mère, ses robes colorées, son regard aveugle, qui voyait au-delà de la lumière du soleil et de l'ombre de la nuit. Près d'Abidine, Adrien se sent redevenir enfant. Le vieil homme se substitue à la figure de son propre père, dont l'image toujours idéalisée échappe de plus en plus aux soupçons de souvenirs cruels attachés aux dernières années et qu'il n'était jamais parvenu à chasser jusque-là. Oui, ou peut-être encore ses souvenirs troubles. Trouve-t-il enfin une place où se poser dans sa mémoire que n'agite plus de vaines révoltes? Le désert aussi procura à Adrien un sentiment d'apaisement incommensurable, sans fin ni limite, sans contour, figé dans sa propre immensité, mouvante, insaisissable. Paradoxalement, ce désert lui semble le seul lieu où il se trouve, se rencontre, se reconstruit, se reconnaît. Il est point de départ pour passer, penser sa propre vie. Il indique la direction qu'elle va prendre. Il est mesure de ses ambitions et de ses exigences. Il est consolation de ses erreurs et de ses échecs. Ce désert lui donne un vrai temps pour la première fois, le temps d'exister. Eh, dis-moi, Adrien, c'est toujours moi qui parle. C'est toujours moi qui raconte la vie, dis à ton tour. C'est comment Paris? Oh, moi, je suis resté à la ville juste le temps d'étudier. L'instituteur avait insisté pour m'y envoyer, ça faisait pas vraiment l'affaire de mon père. Mais l'idée que je devienne maître d'école, oh, il pouvait pas résister. Tous les autres pères l'enviaient. Et vous êtes parti longtemps? Oh, 6 ans, et je rentrais pas souvent. Ma mère préparait une soupe que sa propre mère faisait, de la harira, je crois, je me souviens plus bien. Elle la préparait avec des fèves et de l'huile, des épices. Oh, je détestais ça, mais pour elle, c'était une façon de marquer mon retour, comme si elle voyait dans celui-ci son propre retour vers son pays. Elle n'y est jamais repartie. Je sais même pas, en fait, pourquoi elle est arrivée là. Comment elle connut mon père qui l'a amenée à Tichit. Le plus triste, vois-tu, c'est que je ne connais pas la récolte de cette harira, et c'est pas un plat d'ici. Parfois, quelque épice se chatouille mon nez, une bouffée de céréales, de kamoun, une trace qui éveille à l'instant une situation. Je vois ma mère découpant avec parcimonie les petits cubes de tomates, mais c'est tellement éphémère. J'arrive pas à mettre un nom, une date. C'est comme si on entr'ouvrait dans les yeux un coffre rempli de tous tes rêves pour le refermer aussitôt. Allez, je suis trop bavard, raconte-toi. Bon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais dis-moi un peu ta vie, les gens que tu connais, les enfants. J'ai pas la tête à ça. Oh, c'est si loin, ou plutôt je me sens tellement ailleurs. Mais ta place est pourtant là-bas, Adrien, tu le sais. Oui, mais des fois, on n'a pas le corps et l'âme au même endroit, souvent même. Oui, c'est vrai, les vrais bohèmes ne bougent pas beaucoup, mais ils sont toujours en voyage d'eux-mêmes, de leurs amis, de leur famille, du monde, quoi. Adoya, raconte-moi alors un de tes voyages. À l'horizon, le ciel a pris des teintes marines au-dessus des maisons que les points jaunes et vacillants des lampes piquent autour de la mosquée. On entend encore des moutons bêler, et déjà les femmes appellent les enfants, dispersés sitôt le dîner achevé, pour les faire dormir. C'est l'heure qui clôt la journée et ouvre ce temps particulier fait de conciliabules sur les terrasses et de menus travaux. Quand les mains ne sont pas occupées, les hommes fument et laissent échapper de leurs lèvres des serpents bleutés et indécis. Le parfum du tabac se mêle à l'odeur de la poussière adoucie par les effluves des premiers lauriers roses en fleurs. Je pourrais vous dire, oh, c'est l'histoire, enfin, c'est même pas une histoire. C'est une femme qui pense toujours qu'elle va mourir. Et elle va mourir, oh, comme tout le monde, mais elle croit toujours que ça va se produire dans les heures ou les jours qui viennent. Et quand elle n'y pense plus, c'est qu'elle est occupée de l'idée qu'on va la mettre en prison. Et pourquoi elle ira en prison? Oh, elle a plein de raisons pour y aller. Des histoires d'argent, des histoires politiques, mais bon, elle n'y va jamais. Enfin, du moins pas depuis qu'elle y a passé quelques semaines, pour des raisons que je ne connais pas bien. Elle y a laissé en tout cas une part d'elle-même. Moi, à sa place, bon, la prison, ça n'a rien à voir, certainement. Je me serais rapatrié entier le plus vite possible. Je sais. Mais ce n'est pas pareil pour elle. Elle perd même son ombre et ne sait où elle l'a laissée. Puis quand elle ne pense pas risquer la prison, elle est en colère ou elle en est malheureuse. Ah, n'est pas pareil. Si, pour elle, ça devient la même chose. Il n'y a que la couleur qui change. La colère est rouge, enfin, elle ne vire pas au rouge, mais ses idées, oui. C'est une couleur qui refuse toutes les autres. Et puis on ne peut rien quand on est triste, on dirait que la mer quitte ses yeux. Elle a les yeux bleus? Non, marron, mais ça ne change rien. Déjà dans la colère, elle est aveugle, alors vous savez la couleur de ses yeux. Volcan éteint, oui, c'est ça. Mais c'est de quelle couleur un volcan éteint? Abidine écoute. Il écoute les silences suspendus aux paroles d'Adrien. Et la mélancolie lui fait des vagues dans le regard. Il faut que tu l'aimes pour dire des choses pareilles. Oui, je l'aime infiniment. C'est ta femme? Non. Alors, elle existe, cette femme? Alors rien. Un jour, quoi un jour? Ben, un jour, elle va mourir, ou moi, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Vous savez, il y a des soirs comme ça qui sont trop difficiles, qui vous font peine à porter. Vous écoutez de la musique, vous lisez un livre qui peut même vous faire rire, mais après ça vous fait des soirs d'émotions trop pleines et vous avez envie de mourir. Mais ça fait quoi, une envie de mourir pour toi? Ça fait comme lorsque vous ne savez plus le sens du mot avenir. C'est difficile à imaginer. Ça fait comme lorsque vous ne pouvez plus te souvenir du goût de la vie. Alors vous ne pouvez plus la désirer, vous comprenez. Et si le désir de la vie est en panne, c'est que vous avez déjà commencé à mourir un peu, ou que ça ne va pas tarder. Ne vous inquiétez pas, je surveille ça de près. Adrien a lancé sa dernière remarque sur un ton plus léger. Bien vu, elle est bizarre, ton histoire. Tu commences par me parler d'une femme qui pense toujours à la mort et tu ne penses en fait de me parler de toi. Je sais, oh, oui. Je sais, peut-être qu'à force, je suis devenu elle, tellement mêlé à elle que je ne peux plus me penser sans elle. Au travers d'elle, je me sens exister. Oui, c'est ça. Vous savez que j'écris. Non, je ne vous l'ai jamais dit. Mais si, tu es chercheur et tu écris un livre sur... Non, c'est pas de cela dont je parle. J'écris autre chose que pour les recherches, une vraie écriture en quelque sorte. Raconte-moi, je connais pas tout ce qui se fait. Quand j'étais à l'école, on lisait des romans, bien sûr, et j'en ai fait lire à mes élèves. Je recevais l'actualité littéraire, un journal de 4 pages, et là, je vous fais pas une ligne, mais... C'est loin déjà tout cela. Maintenant, on ne sort plus d'ici. Les habitants de Tichy ont besoin de quelqu'un pour organiser la bibliothèque, distribuer les tâches, trier les manuscrits, indiquer les restaurations à effectuer. Ils m'ont désigné, et c'est peut-être la tâche la plus noble que j'ai jamais eue à effectuer. C'est un véritable sacerdoce. Pour un peu... Depuis des siècles, les hommes de ce pays se sont légués de génération en génération le devoir de veiller sur leur bibliothèque. Et j'ai pas fait autre chose depuis plus de 15 ans, et c'est ma fierté. Ah oui, je comprends. Alors dis-moi, mon fils, tu écris quoi ? Ben justement, j'écris ce que je vous ai raconté. L'histoire de la femme, bon, ça doit pas être très gai. T'as pas l'air d'aimer beaucoup la vie, toi. La question ne se pose pas, ou du moins pas dans ces termes. Je voudrais écrire, je voudrais la vérité de la vie, et l'écrire, j'essaie, sans grand succès. Comment ça ? Ben, j'écris peu. Puis surtout, je n'arrive pas à une écriture absolue, définitive, une écriture après laquelle rien de même nature ne soit possible. Mon fils, t'as des ambitions qui n'ont pas de sens, sois toi-même, tout simplement. Justement, c'est cette simplicité que je cherche. Si j'y parviens un jour, j'aimerais que ce soit le nom de cette femme qui la signe, parce que c'est elle qui en serait le véritable auteur. Elle m'a conseillé déjà la correspondance, puis la nouvelle, le policier, les classiques. Je me suis un peu essayé à quelques-uns de ces genres après les avoir beaucoup lus. Si au moins je retrouvais le bonheur de lire. Il m'a été gâché par la douleur de ne pas savoir écrire. Mais qui te dit que tu ne sais pas écrire ? Bon, j'écris d'instinct des mots qui disent un peu du monde de ses couleurs, mais je ne sais pas écrire un début, un milieu, une fin. Je me souviens quand j'avais ma classe, au mois de mai, je projetais un film aux enfants. Quel bonheur pour eux, c'était une vraie fête. J'aimais au cinéma ce mot « fin » qui explosait sur l'écran et s'approchait à toute vitesse des yeux des spectateurs. Écrire, vous voyez, ce serait ça, un début, un milieu et une fin, comme dans un film. Mais l'écriture est au-delà de ce mouvement qui fait un tout. Pourtant, ta langue est celle de ta famille, Adrien, celle de ta mère, ta langue maternelle. Elle est don de tes parents, elle fait tes racines et constitue à ce titre un tout. Vous parlez comme cette femme parce que vous mêlez aussi langue et écriture. L'écriture est différente. Elle correspond à la part muette de soi-même. L'écriture est une sorte d'entre-deux, de déchirure, qu'il faut constamment raccommoder. Elle évoque l'indicible, les racines qu'on n'a pas justement et qu'on se cherche sans jamais les trouver. Toi, Adrien, tu as mal. Oui, mal à mon identité, ma non-identité plutôt. À mon âge, j'en suis encore à me demander qui je suis. Mes ancêtres et mes ascendants ne me suffisent pas pour répondre à cette question. Qui suis-je ? Là, tu vois, impossible de me défiler. Tout ce qui peut contribuer à résoudre ce problème est de ma seule responsabilité. Inutile que j'aille fouiller mon passé, que je me cherche une histoire fondatrice. Je suis nu, vierge, mon histoire est celle de mon seul présent. Et mon présent, justement, je n'en suis pas particulièrement fier. C'est pour cela que tu as envie parfois de disparaître? Oui. Et faute de le faire, je tourne en rond. Mais tu as bien objectivement des souvenirs, tout de même, une famille. Oui, mais dans ce cas précis, ça ne veut pas dire grand-chose. Ces souvenirs ne suffisent pas à me faire vraiment exister. C'est étrange. Je me nourris plus des souvenirs de cette femme. C'est au travers d'eux que je reviens à ma propre histoire. Ça se fait sans que je le veuille. Je la place, elle et sa vie, immanquablement sur le chemin de ma vie. Il faut qu'elle vive, j'ai tant besoin de la certitude de son existence pour continuer à vivre moi-même. Il faut que je sache qu'elle existe. Chaque jour, j'ai besoin de ce savoir et chaque nuit aussi. Si je pouvais dormir longtemps, très longtemps, je n'aurais pas besoin de compter les heures pendant lesquelles la conviction de son existence m'échappe. Et si elle venait à disparaître, Adrien, ah, je me tue. Je me tais. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que ceux qui m'aiment sont capables de supporter. Mon absence ou mon silence définitif. Mon fils, il y a beaucoup à faire ici. Reste parmi nous. Chaque jour t'apportera ton lot de difficultés à résoudre. Le travail peut être une vertu dans certaines situations. Oui, je sais, je sais. À Paris, je travaille déjà beaucoup. Oui, mais ça t'empêche pas de penser. Ici, tes pensées seront plus légères, tes peines moins lourdes à porter. Tu verras, tu seras apaisé sans même chercher à l'être. Le désert murmure sa présence et accompagne les hommes dans chacun de leurs gestes. Ici, tu ne seras jamais seul, jamais au bord de toi. Le pays est si vaste. Il te ramènera toujours à toi-même, sur tes propres traces. Devant les deux hommes, le ciel a fondu ses ailes de plomb sur les dunes et noyé les reliefs dans ses ombres à peine bleutées. Le village a arrêté chaque geste, chaque mouvement, chaque bruit, et au plus profond du lointain, c'est à peine si on entend les soupirs des chacals. Le monde est suspendu, immobile au-dessus de cette heure, avant que ne recommencent les cris et les frémissements du désert.